Prions. Seigneur, ce matin, tu me permets, Seigneur, de partager ta parole. Et Seigneur, je te demanderai ton aide pour que tout se passe selon ta volonté et que ce que j'ai à dire vienne de ta parole et pas de moi. Au nom de Jésus, amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 9 et le verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Dans un petit village italien, dans la région du Piémont, qui se trouve au nord-ouest de l'Italie, vous trouverez une église qui n'est pas comme les autres. À l'intérieur, le long des murs, vous remarquerez plusieurs statues représentant les prophètes de l'Ancien Testament. L'index de la main droite de chacune d'elles est dirigé vers la même direction. Toutes convergent vers le même point. Vous remarquerez alors une statue beaucoup plus grande que les autres, représentant Jésus-Christ. Toutes ces statues veulent simplement dire la même chose. Nous annonçons la venue de Jésus. Vous le savez peut-être aussi, le prophète qui a probablement parlé le plus de Jésus-Christ est le prophète Ésaïe. Il est celui qui a annoncé sa naissance, mais c'est aussi Ésaïe qui a annoncé sa mort en écrivant Ésaïe 53, versets 2 à 10. Dans les mots magnifiques du verset 5, je veux en retenir un seul. C'est le mot admirable. Heureusement, nous n'employons pas souvent cet adjectif. Car qu'est-ce qui est vraiment admirable dans ce que font les hommes? Consacrons plutôt ce mot à celui qui était, qui est et qui sera admirable. Et ce matin, je me limiterai à sept choses, à sept caractéristiques, à sept étapes du parcours admirable de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a été admirable dans sa naissance, dans sa vie, dans sa mort, dans sa résurrection, dans son ascension, dans son ministère présent et dans son retour. Admirable dans sa naissance, quand le temps est arrivé, quand à l'horloge de Dieu l'heure a sonné, Dieu a dit: c'est le moment pour mon fils de quitter la gloire du ciel et de descendre sur la terre pour sauver l'homme du péché, de ses péchés. Mais comment l'a-t-il envoyé? Il aurait pu l'envoyer sous la forme d'un ange ou d'un roi tout-puissant. Il aurait pu aussi l'envoyer directement comme un adulte. Mais non. Dieu a décidé de l'envoyer comme un faible enfant, dans une famille toute simple, afin de connaître tous les problèmes de l'enfance, puis toutes les épreuves et les tentations qui sont propres à l'homme. Dieu a aussi choisi la femme qui enfanterait Jésus. Son choix s'est porté sur une certaine Marie, une jeune fille qui craignait Dieu et de qui l'on rendait un bon témoignage. Le message a été donné non seulement à Marie, mais ensuite à Joseph, son fiancé. Et ils ont accepté tous les deux cette extraordinaire responsabilité. Et c'est au son de la musique du ciel, entendue par les bergers, que l'enfant allait naître. Quelle extraordinaire naissance! Depuis qu'Adam et Ève avaient été créés par Dieu, aucun enfant n'était venu au monde sans une relation intime entre l'homme et la femme. Dans la naissance de Jésus, aucune intervention humaine. Tout se fait à l'échelon divin. Au ciel, Jésus est sans mère. Et dans l'étable de Bethléem, il était en réalité sans père. Nous le savons, la naissance de Jésus a été miraculeuse. Et on n'a pas fini d'en parler. Mais pour nous, c'est un miracle. Un miracle, pour nous, ça ne s'explique pas. Il est fait pour être cru. La naissance de Jésus étant admirable, miraculeuse, elle nous donne la possibilité de se réjouir pleinement le jour de Noël. Car Jésus étant né, Jésus va aussi grandir. Et cela nous donne la possibilité de découvrir d'autres choses d'admirable concernant le Fils de Dieu. Jésus a aussi une vie admirable. Il y a beaucoup de choses dans le Nouveau Testament décrivant sa vie. Premièrement, il n'a jamais péché. L'apôtre Pierre l'affirme dans 1 Pierre 2, verset 22. Lui, on parle de Jésus, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. L'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit aussi dans Hébreux 4, verset 15. Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Il y a eu, à travers les siècles, dans le monde, des hommes de bien. Mais aucun d'eux n'était parfait. Un seul l'a été, c'est Jésus-Christ. Personne n'a pu prouver une chose mauvaise dans toute sa vie. Si bien que Pilate n'a pas pu dire autre chose que « Je ne trouve point de crime en lui ». Dans une église, un pasteur annonça qu'il y aurait un service funèbre dans son église, sans indiquer le nom de la personne décédée. La foule est venue. Le cercueil était devant, avec des fleurs tout autour. Le pasteur n'a pas rendu d'hommage au défunt, mais au contraire, a énuméré toute une liste de péché, et dit que le châtiment éternel l'attendait. Quand il eut fini de prêcher, il invita l'assemblée à venir voir ce terrible pécheur. Les gens ont défilé et ont eu la surprise de constater d'abord que le cercueil était vide. Mais au fond du cercueil, il y avait un grand miroir dans lequel chacun pouvait se regarder. C'est peut-être d'une manière un peu brutale, mais ce pasteur avait voulu montrer que nous sommes tous ici présents, et moi-même y compris, tous des pécheurs. Quelle différence, n'est-ce pas, avec Jésus, dans lequel il n'y avait pas de péché. Pour nous chrétiens, il y a certainement, j'ai mis des secondes, puis j'ai mis des minutes, puis j'ai mis des heures, où nous ne péchons pas. Mais y a-t-il vraiment un jour pendant lequel nous ne péchions d'aucune manière? Mais quand on regarde à Jésus, toutes les minutes, toutes les heures, toutes les années de sa vie, il n'a jamais commis de péché. Encore une dernière chose concernant sa vie, vous le savez, Jésus fit des miracles étonnants. Jean, à la fin de son évangile, dit « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. » Jésus touchait les aveugles et il voyait. Il touchait les paralytiques et il marchait. Il a guéri les lépreux. Il a calmé la tempête. Il a ressuscité des morts. Il faisait des choses extraordinaires, car toute la puissance du ciel était avec lui. Jésus a aussi une mort admirable. Il est mort comme aucun autre homme. C'est certain que quelques-uns ont donné leur vie pour un autre. Je passe ici dans un camp de concentration où un pasteur a donné sa vie en échange d'un... Donc c'est un père de famille qui devait être exécuté et un pasteur s'est proposé pour le remplacer. Ou pour une certaine grande cause. Je pense ici au Chinois qui se fait renverser par un char et qui s'est fait tuer au nom de la liberté. Mais Jésus est le seul à être mort pour sauver les hommes d'une mort éternelle. Il leur a donné la possibilité d'aller un jour auprès de lui. Jésus n'avait pas à mourir. Il a dit, « Personne ne m'ôte la vie. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » On peut lire ça dans Jean 10, verset 18. Faut-il encore rappeler la scène de la crucifixion? Il y a un an, en visitant les lieux à Jérusalem, je relisais ce récit. De bonne heure le matin, on obligea Jésus à porter sa croix en direction du Golgotha. Mais il n'avait pas la force de la porter, si bien qu'on la fit porter par Simon. Et en arrivant au lieu appelé le crâne, on étendit son corps sur la croix. Il me semble encore entendre les coups de marteau enfonçant les clous dans ses mains et dans ses pieds. Puis la croix est dressée pendant 6 longues heures. Il a souffert terriblement. Puis soudain le soleil s'est voilé et les ténèbres sont descendues sur la terre. Finalement, à 3 heures de l'après-midi, Jésus a poussé un cri. Tout est accompli. Et il a remis son esprit entre les mains de son Père. En disant ces paroles, Jésus expira. Jésus a fait tout cela pour moi et pour chacun d'entre vous ici présents. Si nous avions été les seuls sur la terre, il l'aurait fait pour nous. Au regard de cet événement, il y a une question que l'on peut se poser et y répondre sincèrement, vraiment au fond de notre cœur. Et cette question est celle-ci. Depuis que le Christ a fait cela pour vous, pour moi, qu'avez-vous fait cette semaine pour lui? Qu'avez-vous fait cette semaine pour lui? Qu'avez-vous fait ces derniers temps pour lui? Que faites-vous pour celui qui vous aime? Et s'est donné pour vous sauver. Que faites-vous? Jésus a aussi une résurrection admirable. C'est vrai, ils ont crucifié Jésus et l'ont mis dans un tombeau. Mais aucune tombe sur la terre ne pouvait le conserver. Le troisième jour, comme il l'avait annoncé, il est sorti de la tombe, vivant pour toujours. La résurrection prouve qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Parlant à un chef musulman, un chrétien lui disait « Nous croyons que Dieu s'est révélé aux hommes. » Le musulman de répondre « Nous croyons aussi cela. » Le chrétien dit « Nous croyons que Dieu s'est révélé dans un livre appelé la Bible. Nous croyons que Dieu s'est révélé dans un livre qui s'appelle le Coran, dit le musulman. Nous croyons que Dieu s'est révélé dans un homme appelé Jésus-Christ. Nous croyons que Dieu s'est révélé dans un homme appelé Mahomet. Nous croyons que Jésus-Christ est mort pour sauver le monde. Le musulman dit, nous croyons que Mahomet est mort pour son peuple. Nous croyons et nous avons la certitude que Jésus est ressuscité et que plus de 500 personnes l'ont vu après sa résurrection. Et là, le musulman dit, nous n'avons aucune information après la mort de notre prophète. Oui, Jésus est le seul homme et unique qui a été victorieux de la mort et qui est sorti triomphant du tombeau. La différence entre le christianisme et toutes les autres religions, c'est que tous leurs fondateurs sont morts. Sur tous les tombeaux de Mahomet en Arabie, de Confucius en Chine, de Bouddha en Inde, on pourrait mettre « Ici repose tel et tel ». Et ce n'est pas le cas à Jérusalem. Le tombeau est vide. La pierre qui le fermait a été roulée. Quelle résurrection admirable! Son ascension aussi a été admirable. Au printemps 1961, le premier homme s'est lancé dans l'espace et la science l'applaudissait. Mais en réalité, ce n'était pas la première fois qu'un homme s'élevait dans l'espace. Après 40 jours passés sur la terre, après la résurrection, Jésus conduisit ses disciples sur la colline dominant Jérusalem, le mont des Oliviers. Et là, alors que ses disciples restaient la bouche ouverte d'étonnement, Jésus s'élevait dans les nues et disparaissait à leurs yeux. Juste un nuage lui suffisait pour retourner dans la gloire de Dieu. Qu'il connaissait déjà, n'est-ce pas, avant que le monde existât. Quel retour glorieux ce fut. Et nous comprenons mieux cette parole aux Philippiens. Aux Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui était au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et chose merveilleuse, après que Jésus soit retourné au ciel, le Saint-Esprit est venu, 10 jours plus tard, pour habiter le cœur de tous ceux qui croyaient dans le sacrifice de Jésus-Christ. Admirable travail présent. Que fait Jésus au ciel en ce moment? Jésus est en train de prier pour vous, pour moi. Très souvent, nous recevons ces lettres disant « Je prie pour toi ». Oui, c'est un grand encouragement, c'est vrai. Mais il y a encore mieux. Au ciel, notre Seigneur, Jésus-Christ, parle au Père et il intercède pour moi, pour vous, jour après jour. Nous ne connaîtrons que lorsque nous serons dans sa présence ce qu'a signifié son ministère pour chacun de ses enfants. Jésus, avant de quitter ses disciples, leur a fait une promesse extraordinaire. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et savez-vous, entre parenthèses, que la Bible contient plus de 30 000 promesses et que nous avons tout simplement à les découvrir et à les faire nôtres. Un des livres les plus merveilleux à cet égard est le livre des psaumes. Le psaume le plus connu est probablement le psaume 23, que j'aime particulièrement, et en l'occurrence cette phrase. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. » Vous avez certainement fait, pour la plupart d'entre nous, des ascensions de montagne. Et une fois arrivé au sommet, c'est vrai, on admire le paysage, et surtout le calme aussi. Mais on réalise bien vite qu'on ne peut pas toujours rester là au-dessus. Pourtant, la vue est magnifique. L'air est pur et frais. Mais on sait qu'il faudra à un certain moment redescendre dans la vallée. Dans la vallée où il n'y a plus de vue, sinon les maisons qui nous entourent. Et de même, les chrétiens réalise qu'il ne peut pas toujours être au sommet. Mais il sait par expérience que la vie l'oblige plus souvent qu'il ne le souhaite à descendre dans la vallée du chagrin, à descendre dans la vallée des difficultés, à descendre dans la vallée de la maladie. Et quelquefois, il sait que la mort est au bout. Notre sérénité, notre joie peuvent être subitement brisées par une grosse difficulté. Mes chers frères et sœurs, vous pouvez toujours trouver encore la paix, même dans ces moments-là, même dans la vallée, à la seule condition que Jésus soit avec vous. N'a-t-il pas promis de s'y trouver ? Est-ce que Jésus n'est pas présent aussi bien dans la vallée que sur les sommets? Il l'a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Et le verset suivant ajoute, « C'est donc avec assurance que nous pouvons dire que le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien que peut me faire un homme. » Quand vous êtes en voiture et que vous devez traverser un tunnel, que faites-vous? Quand on n'oublie pas, on allume nos phares. Et si vous avez une voiture en bon état, vous ne doutez pas pour un instant que les phares ne vont pas éclairer la route. Jésus n'a-t-il pas dit, « Je suis la lumière du monde. » Vous passez en ce moment par l'épreuve, par la difficulté, prenez courage, car Jésus est la lumière du monde. C'est justement dans les difficultés que nous expérimentons la présence de Jésus à nos côtés. Avez-vous remarqué que lorsque tout va relativement bien, et pour certains ça peut durer des années, pas seulement un mois ou deux, ça peut durer des années, nous avons tendance à laisser Jésus de côté. Mais soudainement, vient la difficulté. Nous avons alors besoin de nous souvenir qu'il est là et qu'il veut nous aider. Job à passer par la vallée. Il avait perdu tous ses enfants, tous ses biens, et enfin même sa santé. Mais pourtant, il a pu s'écrier, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. » Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il n'a pas perdu confiance. Et à la fin, Dieu a honoré sa foi. Après cette épreuve, sa situation a été meilleure qu'avant. Oui, la sombre vallée nous attend tous un jour. Mais ceux qui ont connu le sommet de la colline où se trouve la croix du Christ l'ont aussi avec eux dans la vallée. Nous avons besoin de nous rappeler que la vie chrétienne n'a jamais été une vie facile. Le septième point, c'est admirable chose que sera son retour. Au moment où Jésus quittait cette terre, deux anges ont dit aux disciples que Jésus reviendrait de la même manière qu'il est monté au ciel. Du retour du Seigneur, le Nouveau Testament en parle à 318 reprises. Et en pensant à son retour, nous avons tous besoin d'avoir la certitude de notre salut. Il est possible de faire une confession verbale de foi, d'être associé à ses enfants, les enfants de Jésus, et pourtant de ne pas être un chrétien ou une chrétienne dont le cœur a été changé. C'est ce que Jésus a illustré par la parabole des cinq vierges folles dans Matthieu 25, 1 à 13. Les cinq vierges folles professaient d'être dans l'attente du Seigneur et pourtant elles n'avaient pas d'huile dans leur lampe. C'est typique. C'est typique de tous ceux qui se disent chrétiens mais qui n'ont pas le Saint-Esprit dans leur cœur. Car quand il y a une vraie conversion, en acceptant Christ comme sauveur et Seigneur de sa vie, le chrétien est scellé par le Saint-Esprit. Il le sait et les autres le voient. Bien que beaucoup de signes soient là pour nous révéler l'imminence du retour du Seigneur, nous ne pouvons pas dire quand il aura lieu. Par conséquent, nous devons tous veiller. En pensant à ces sept choses admirables concernant Jésus-Christ, sa naissance, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension, son travail présent et son retour. Soyons prêts, chers frères et sœurs. Aimons-nous les uns les autres. Aidons-nous les uns les autres et travaillons de mieux en mieux pour l'œuvre du Seigneur. Amen.